Actu SF, les podcasts.
Ah, pas parfaitement, mais en tout cas, j'aurais fait tout ce que j'ai pu pour ça.
Moi, c'est une question de temps. Finalement, j'avais jamais vraiment eu le temps d'écrire un roman parce que j'avais une vie professionnelle assez remplie. J'étais formateur d'adultes, je suis à la retraite maintenant. Je donnais des cours aux adultes, en fait. J'ai d'abord travaillé comme je suis suisse, j'ai d'abord travaillé dans une banque, évidemment. C'était la société de banque suisse à l'époque qui était rachetée par l'UBS ensuite. Et puis j'ai travaillé 17 ans dans cette banque avec beaucoup de travail. Et puis à 52 ans, j'ai donné mon congé et je suis tombé au chômage. Et au chômage, les journées sont longues, surtout quand on a l'habitude d'être actif. Je ne sais pas trop quoi faire, comme j'écrivais un peu, je me suis dit j'étais dans ma cave et je regardais un peu ce qu'il y avait dans ma cave et j'ai trouvé un objet étrange avec des boules en bois attachées les unes aux autres. Je me suis dit, ça peut servir à quoi cet objet? Rien. Puis mon imagination est partie, je me suis dit, si ça avait une utilité, qu'est-ce que ça serait? Tu as peut-être un truc pour se rendre invisible, un machin qui vous permet de voyager dans le temps. Et c'est parti comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est parti sur des enfants. Donc, c'est un roman pour la jeunesse. Je disais que c'était un projet, mais je me suis trompé tout à l'heure. Le projet, c'est le roman que je viens de terminer. C'est pas du tout la même chose, c'est vrai. Non, celui-là, c'est parti parce que j'avais du temps et que je m'embêtais, et puis que je...
Quand même, dans Troc de choc, il y a toute une dimension. Donc, ce sont des personnages comme ça qui trouvent ces objets étranges. Et puis, on a quand même un voyage de Timo qui a... angoissant aussi par moments. Qu'est-ce qui fait que tu avais envie que ce soit ce roman-là et ces thèmes-là qui soient portés au public? Est-ce que tu y es particulièrement attaché ou ça s'est fait et puis ça a donné cette histoire?
Je pense que ça reflète un peu mes angoisses du moment. La solitude, le fait d'être seul, de plus avoir de travail. Enfin, j'ai fait 10 mois de chômage. Après, juste pour compléter, j'ai retrouvé du travail après dans une association qui donnait des cours de technique de recherche d'emploi aux chômeurs. Ce qui fait que j'ai fait 14 ans, j'ai dirigé l'association pour finir. Enfin, tout s'est bien passé. Mais à ce moment-là, j'étais effectivement un peu déprimé, un peu au fond du trou, on va dire. Et je pense que ça s'est ressenti dans cette histoire avec ce personnage de Timo qui disparaît. Et que on va finir par retrouver, heureusement quand même, mais avec des objets aux propriétés magiques. Enfin, c'est marrant parce que les critiques du livre me comparent à Philippe Eblis. Et Philippe Eblis, j'avais jamais lu. Je trouve que c'est un bon compliment. Ça m'a fait très plaisir.
Betty, dans Amis imaginaires, c'est une histoire pour la jeunesse, donc avec une petite héroïne, Elena, qui a un ami imaginaire qui a pris corps. Donc y a un côté conte et en même temps, tu es très engagée, toi, dans l'écologie. Ce sont au-delà de la petite bestiole qui prend vie dans le salon, on peut supposer qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Est-ce que tu nous as dit tout à l'heure que le roman avait pris sa place, avait bousculé un projet. Est-ce que pour ce premier roman, du coup, c'est particulièrement fort d'avoir fait ça? Est-ce que c'est un choix d'avoir choisi ces thèmes qui te tiennent à cœur pour un premier roman?
Alors oui, en plus, en fait, quand je l'ai écrit, pour revenir à la genèse, en fait, je suis allée voir le film Vice Versa, donc qui est un Disney Pixar. Je suis sortie complètement bouleversée du haut de mes, je devais avoir 23-24 ans à cette époque-là, parce que toutes les thématiques sur l'enfance, et notamment le personnage de l'ami imaginaire dans ce film, m'ont vraiment parlé. Et en fait, je me suis dit, il faut vraiment que j'écrive... que je rende hommage à l'enfance et à l'innocence de la créativité qu'on peut avoir quand on... Enfin, moi, j'ai toujours été très... je parlais à mes peluches, je faisais des batailles, des jeux, des machins, des trucs très tard, etc. J'en ai jamais eu honte. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait grandir. Et je pense qu'on est, beaucoup dans ma génération à garder cette part d'enfance et à aimer ça. Et que c'est très bien. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage à l'enfance. Et donc cette idée d'avoir tous les amis imaginaires des enfants du monde entier qui apparaissent pour de vrai, je pense que c'est un rêve qu'on a tous eu en se disant « Ah, ce serait trop bien si j'avais ci en plus ». Enfin bref. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'adolescence et qu'il est toujours là, l'ami imaginaire, qu'il a sa place dans la famille et que qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis en fait, au fur et à mesure de l'écriture, il y a plein d'autres thématiques qui sont arrivées, notamment tout simplement celle de l'accueil des étrangers, puisque là, on a des millions d'amis imaginaires qui arrivent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les accepte ? Est-ce qu'ils ont une place dans la société ? En plus, mon éditrice a vraiment apprécié cet aspect-là et a voulu qu'on le travaille encore plus, qu'on rende les choses peut-être un peu plus noires avec le fait que ils peuvent travailler, mais pas avec un salaire d'humain, ils ont un statut à part, etc. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont ajoutées à ça avec le contexte, parce que je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire en novembre 2015 en plus, donc avec ce qui s'est passé, enfin voilà, tout s'est ajouté pour que ça devienne aussi, comme tu disais, plus grand que moi en fait. Moi je suis partie de la thématique de l'enfance et un hommage, et puis c'est devenu quelque chose où j'avais besoin de plus parler de ma vision de la société, et voilà, je pense que ça se voit assez dans le livre. Mais oui, il y avait tout ça qui s'est accumulé dans ce livre là qui fait qu'il est très très personnel au final. Tous les livres sont personnels, mais celui-ci particulièrement pour moi en tout cas.
Pour vous aussi, voilà, un roman particulièrement fort qui justifie tout ce travail-là. Donc tu nous as parlé un peu du fait que ça a dépassé, mais dans les thèmes de Rouille, à travers Violente, à travers la perte de Satine, on sent qu'il y a quand même, au-delà du côté steampunk et particulier de cet univers mécanique, on sent qu'il y a des thèmes qui te tiennent particulièrement à cœur. Tu veux nous en parler un peu, hein ?
Oui, c'est vrai que, comme disait Betty, je pense qu'il y a toujours un peu de nous dans nos livres. Et de toute façon, on n'est que la somme des choses qu'on voit et qu'on entend tous les jours. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, on se nourrit constamment de tout ce qu'on voit. Mais il y a toujours un peu de nous. Et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui me sont très, très... Enfin, que j'ai découvert en fait en écrivant, parce que je n'avais pas vraiment réfléchi. Je ne me suis pas dit, ah tiens, je vais écrire un livre sur la quête de soi et la différence et des choses comme ça, quoi. Mais en le relisant après, quand j'ai fait mes corrections, je me suis dit, ah oui, en fait, genre, ça saute aux yeux. Le thème de qui on est, la place dans la société, comment est-ce qu'on se construit en tant qu'adulte dans une société qui n'est pas forcément évidente ou qui veut nous mettre dans des cases assez spécifiques. Parce que, bon, Violente, on l'a quand même... On l'a mis de force dans une maison close, donc c'est un peu extrême. A priori, ça ne devrait pas vous arriver, mais... voilà, on l'a quand même mis dans une case et on attendait qu'elle reste dans cette case-là. Et voilà, c'est un livre sur l'émancipation. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance très heureuse, mais on m'a beaucoup encouragée à suivre des cases très définies. Voilà, on m'a dit « Ah, mais t'es forte en sciences, donc tu dois faire des sciences et tu dois faire ça. » Et moi, j'étais pas du tout d'accord, mais on m'avait élevée comme ça, donc je l'ai fait, tout en me disant « Mais moi, en fait, ce que je veux faire, c'est écrire des livres, mais c'est pas un vrai métier. » voilà, c'est pas stable, et puis de toute façon, toi t'es une scientifique, donc tu dois faire des sciences, tu vas pas écrire, tu peux lire, bon ok, parce que on peut pas t'empêcher, mais genre, tu peux pas faire ça comme ça. Donc c'est un peu ma révolte d'adolescence que j'ai jamais faite, de dire non, en fait, bon j'adore les sciences, hein, c'est mon métier et j'aime beaucoup ça, mais en fait je trouve qu'on est dans une société qui nous impose beaucoup de n'être qu'une seule chose. Et comme on disait aux enfants, si t'es bon en sciences, tu fais des sciences, et de toute façon, si t'es scientifique, tu peux pas être littéraire, et si t'es littéraire, tu peux pas être scientifique. Et moi, j'avais envie d'être tout. J'avais envie de pouvoir faire des sciences, de faire de la littérature, de faire de la bio, de faire du sport. Je voulais pas qu'on me mette dans une seule case. Et c'est un peu l'histoire de Violente, ouais. C'est ça, on l'a mis de force dans cette case-là, et voilà, c'est son chemin pour s'émanciper de tous ces codes de société qui la forcent à être un seul truc, quoi. Donc oui, c'est assez personnel, au final.
Célia, je ne sais pas si tu as envie de parler du Cirque Interdit ou d'Iseltan ou des deux, de ce que tu as pu mettre dedans, parce que comme tu disais, tu as fait plusieurs romans. Donc peut-être que dans le Cirque Interdit, qu'est-ce qui tenait vraiment à cœur, ou dans Iseltan, si tu veux, pour aller jusqu'à la publication.
Alors, le Cirque Interdit a commencé par un rêve très amusant, puisque tu étais dans Silène. Toi, moi, Paul Béarn et Lise Sivène.
J'ai peur.
On se cachait parce que le gouvernement nous accusait d'écrire des livres subversifs.
C'est pas la vérité.
Je vois pas de quoi tu veux parler.
ça a commencé comme ça. Et puis, c'était quand même pas assez pour écrire un roman, donc j'ai attendu. Puis un jour, ma sœur Amandine, qui est responsable également, m'a appelée en me disant « Célia, il y a le Cirque du Soleil qui passe à la télé ». Et là, en fait, ça s'est complètement imbriqué dans ma tête. Les rouages se sont mis à tourner et j'ai vu combien le cirque et ce personnage ambivalent du clown pouvaient être cette espèce de révolte ou d'alternative autre à une société qui met les gens dans des cages plus ou moins visibles et plus ou moins virtuelles, soi-disant pour les protéger, en disant « ne prenez pas de risques, avec nous vous êtes en sécurité ». Mais en fait, cette cage empêche les gens de profiter de la vie et de vivre libre. Donc c'est un équilibre que chacun d'entre nous doit trouver. Et donc j'aime dans mes livres, que ce soit Le Cirque Interdit ou Iseltan, mettre en place des oppositions entre des modes de pensée. Donc là, entre Maria qui ne voit pas du tout le problème lié au parti zéro risque et puis ces gens du cirque qui proclament leur liberté de prendre des risques. Et dans Iseltan, c'est une jeune femme qui combat aussi un peuple dont la technologie est hyper développée, qui attaque sa planète, tout en étant amoureuse de quelqu'un qui est dans l'autre camp, donc qui doit composer avec ce dilemme intérieur. Voilà, donc j'aime opposer des modes de pensée différents.
Et du coup, là, vous êtes là, vous êtes définie dans cette conférence comme nouveau talent avec ce premier roman, alors qu'on a vu que c'est plus ou moins le cas. Est-ce que ça vous a aussi, vous, aidé à vous définir en tant qu'auteur? Parce que du coup, votre image maintenant pour le lectorat, ce sont ces livres-là. Et est-ce que vous dites, bon, bah voilà, moi, ce livre-là, il me représente bien? Ou est-ce que ça vous donne envie d'élargir le champ et d'en faire encore plein d'autres pour montrer d'autres facettes?
Je commencerai par dire que ma confusion de tout à l'heure, ça vient du fait que je viens de terminer un nouveau roman, un roman policier en fait. Et c'est là que ça a démarré ici. Donc c'est pour adultes, c'est pas du tout pour la jeunesse. Et puis... Donc, effectivement, ça fait quelque part un changement de statut, parce que j'étais connu comme nouvelliste et comme critique, et puis maintenant, je suis aussi romancier. Alors, ça fait bizarre.
Voilà. Surtout, tu disais tout à l'heure, nouveau talent, voilà, toi, tu as associé un premier roman à quelqu'un de jeune. Or, c'est pas le cas en littérature. Enfin, les jeunes auteurs peuvent avoir n'importe quel âge, finalement.
Voilà, c'est ça que ma présence ici peut montrer, c'est qu'on peut être un jeune auteur à tout âge. Faire un premier roman, surtout, à tout âge. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ont le désir d'écrire, Il faut s'y lancer, il faut juste pas oublier que c'est un très très long travail et qui est parfois décourageant, enfin décourageant pas vraiment, mais il y a des phases où on est moins optimiste, mais enfin ça revient, il faut s'acharner, voilà, je dirais ça.
Et toi alors, tu t'es retrouvée définie par ce premier roman ou enfermée, ou au contraire c'est une belle carte d'identité?
Alors, ensemble, avec Célia, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on en a un assez fort toutes les deux. C'est-à-dire que c'est compliqué. On trouve toujours moyen de se dénigrer en se disant « Oui, mais alors j'en ai écrit un qui a marché, mais alors peut-être que les autres, ça ne marchera pas. Et puis peut-être que je ne serai plus éditée. » Et puis plein de choses comme ça où souvent... ils vont se rendre compte qu'il ne fallait pas méditer et que je suis nulle, enfin, ce genre de choses. Mais faut tenir bon. Alors, est-ce que celui-ci me définit? Je ne sais pas, parce qu'en fait, comme j'écris pas mal de choses différentes dans plusieurs styles aussi, je n'ai pas forcément envie de me cantonner à de la jeunesse. Et puis, en plus, c'est un one-shot, donc... Donc voilà, je ne vais pas continuer forcément dans cet univers-là. Du coup, j'ai envie d'être définie par d'autres livres dans le futur. Mais par contre, j'ai envie de continuer en tant qu'auteur, ça c'est sûr. Enfin, j'ai fait en sorte que ma vie tourne autour de ça aujourd'hui. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage étant que j'ai du temps tous les jours pour écrire et que c'est génial de faire ce qu'on aime. L'inconvénient étant que je me dis, si ça marche pas, je fais quoi quand j'aurai plus le chômage, par exemple. Mais voilà, c'est des paris à prendre et j'ai envie de tenter ça jusqu'au bout. Enfin, de tenter l'aventure complètement, en tout cas. D'essayer d'être définie en tant qu'auteur vraiment complètement et que ce soit mon métier principal, mon seul métier, jusqu'à la fin des temps.
Il n'y a pas de retraite chez les auteurs. Oui, si tu veux.
C'était quoi la question ?
C'était, est-ce que tu te sens définie par, par Rouille ou est-ce que tu dépasses ça et que tu as envie de montrer d'autres choses ?
Je pense qu'un premier roman, c'est toujours quelque chose de particulier. Que, quoi qu'on fasse, voilà, ça sera toujours le premier. Et il sera toujours, il aura toujours une place spéciale dans nos cœurs et même pour nos lecteurs qui nous ont découvert et tout, parce que c'est le tout premier, quoi. Et en fait, je pense que c'est un peu comme un instantané de ce qu'on a été à un moment. Mais on va forcément évoluer. Donc forcément, même si je sais qu'il y a des choses de moi dans certains personnages, c'était moi. Moi, j'ai commencé à écrire ce roman-là en 2015, donc déjà, ça date. Et je sais que j'ai déjà changé et que des fois, je relis des passages et je me dis « Ah, en fait, elle est chiante. Violente, elle est relou. » et du coup, je ne me reconnais pas plus forcément en elle. Mais du coup, voilà, ça restera toujours quelque chose de particulier. Mais dès le début, je savais que j'avais envie de voir d'autres choses. Et d'ailleurs, dans Les Noces, par exemple, on est dans un univers qui est complètement différent. Et les gens me demandent beaucoup « Est-ce que je vais écrire une suite à Rouille ?» Parce que c'est aussi un one-shot. Et je dis souvent que non. Parce que mes personnages, ils ont assez souffert et ils ont le droit de faire leur vie maintenant, c'est bon. Par contre, j'exclus pas, je me dis pas un jour, je vais pas revenir dans l'univers de Rouille ou dans du steampunk. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire des trucs très différents. J'ai envie de faire de l'adulte, de la science-fiction qui tâche vraiment. Vraiment d'explorer d'autres trucs parce qu'il y a tout ça en moi aussi. Mais voilà, Rouille, ce sera toujours Rouille, ce sera toujours le premier, ce sera toujours mon bébé et puis et il sera toujours particulier, quoi.
De mon côté, chacun de mes romans est vraiment une facette de ma personnalité, donc j'y mets une part de moi. Après, j'ai une personnalité qui a aussi plusieurs facettes et qui change, comme tu l'as dit. Donc à chaque fois, je montre des choses un petit peu différentes. Mais je pense qu'il y a quand même des thématiques qui me sont chères, qui reviennent. Donc l'idée d'opposer des personnes qui ne voient pas du tout le monde de la même manière. L'idée d'arriver à trouver sa propre voie, sa propre place dans le monde. De s'émanciper dans une société assez rigide, je pense que c'est des choses qui font partie de moi et qui reviennent, en fait, d'un roman à l'autre.
Donc, en fait, chacun d'entre vous, vous êtes des sources, vous n'êtes pas les écrivains, les autrices et auteurs d'un seul roman, comme ça peut arriver. Hein. Il y a des gens qui pensent à un livre toute leur vie, qu'ils publient, et puis hop, c'est fini, on ne les revoit jamais. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus ce type d'écrivain qui refont la même chose toute leur vie. J'ai l'impression que chacun d'entre vous, en fait, là, on a réuni dans les nouveaux talents quatre écrivains qui avaient cette source et plein d'idées différentes. Et vous avez déjà commencé, vous avez d'autres projets en cours, du coup. Par rapport à ça, par rapport à ce qui est dans votre tête et qui se déroule et qui s'écrit ou même qui a été publié, est-ce qu'il y a un décalage avec votre présence ici ? Vous êtes nouveau talent, premier roman, et est-ce que vous sentez un décalage entre le livre qui est déjà fini et ce qui est en route, ce qui est la suite, en fait ? Ou est-ce que juste vous profitez de ce premier roman ?
Personnellement, en fait, je suis actuellement dans un univers de fantasy asiatique. Donc, ça n'a pas grand rapport avec le cirque, mais aujourd'hui, je suis là pour le cirque. On est sous un chapiteau, c'est merveilleux. Donc, je laisse un peu de côté le roman que je suis en train d'écrire pendant 4 jours. Ça va être une petite parenthèse enchantée. Et après, je reviendrai dans l'autre univers, qui est finalement pas si loin du tien.
Oui, on a parlé, Floria m'a dit, toi aussi, le Japon est à la cote en ce moment. Pour répondre à ta question, je pense qu'en fait, tout participe de ce qu'on est en train de faire. Que si on n'avait pas écrit ces romans-là, on ne serait pas en train d'écrire ceux d'après. Donc, il y a forcément un décalage dans le sens où ces livres-là, ils ont été écrits pour nous il y a bien plus longtemps que le moment où ils sortent pour les gens. Par exemple, Rouille est sorti en 2018, mais je l'ai commencé fin 2015. Donc, il y avait déjà du temps. Quand il est sorti, pour moi, j'avais déjà écrit un autre roman entre-temps. Mais du coup, il fait partie du grand tout de ce qu'on est en train de faire et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de décalage parce que pour les lecteurs qu'on rencontre, il vient de sortir. Et même si on est déjà sur d'autres projets, au final, comme disait Betty, s'ils existent qu'à partir du moment où ils sont publiés, ben, ils n'existent pas vraiment depuis si longtemps que ça. Donc, en fait, tout trouve sa place naturellement, je pense.
Moi je ne sens pas de décalage non plus. On fait des choses différentes. Effectivement, moi je suis pas l'auteur d'un seul roman. J'ai pas envie d'écrire toujours la même histoire. J'ai aussi plein de choses à explorer de la même manière que vous. C'est peut-être une marque d'ailleurs des littératures de l'imaginaire, c'est de pouvoir laisser aller son imagination. Mais là, je dois dire que j'ai déjà commencé la suite de Troc de choc. Il se passe de drôles de choses dans l'école, puis là, il y aura encore de nouvelles choses, encore plus drôles, qui vont arriver. Donc, je vais revenir dans cet univers.
Il y a deux projets, il y a le policier et il y a la suite de Troc de choc.
Le policier, il est terminé. Il faut que je le corrige. J'ai eu des bêta lecteurs qui l'ont relu, mais je n'ai pas eu le temps de le faire avant de venir ici, mais c'est vraiment tout frais. Et puis l'autre, ben, je le ferai après. Donc, effectivement, quelque part, il n'y a pas de décalage, mais il y a un nouvel élan de romancier, on va dire, ou d'auteur de roman. Voilà.
Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit avant. J'ai juste une petite nuance, c'est que, personnellement, comme c'est très jeunesse, et qu'en ce moment, j'écris de la blanche adulte, un peu chaude parfois, il y a un décalage assez énorme entre venir pour AI et ce que j'écris en ce moment. Mais c'est aussi ça qui fait, la beauté de ce métier, c'est que, moi je pense qu'il ne faut pas se limiter à un genre, un style, une tranche d'âge et puis continuer. Après voilà, c'est, enfin moi ça me frustre un tout petit peu dans le sens où venir parler d'un roman très jeunesse quand t'as écrit des choses plus adultes après, enfin forcément ouais, il y a un décalage entre, enfin mon écriture a évolué, plein de choses ont évolué, mais ça viendra, je viendrai parler d'autres projets d'autres années et puis voilà, tout simplement.
Ça m'amène à la question suivante naturellement. Est-ce que la publication du premier texte vous fait travailler maintenant différemment? Alors au-delà des aspects matériels, hein, maintenant vous savez qu'il faut corriger 1000 fois. Ça, c'est acquis. Mais même, justement, dans l'écriture en amont, est-ce que ça change des choses parce que vous êtes plus conscient, peut-être, de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui bouleverse un petit peu l'écriture ou pas? Ou alors vous étiez déjà très conscients les uns les autres en écrivant?
Oui, je dirais oui. Dans la mesure où quand j'écrivais des nouvelles, je faisais... Quand ça venait, des fois je pouvais écrire plusieurs heures d'affilée, ce genre de truc. Puis là, ce qui change, c'est que je planifie le temps d'écriture, ce que je ne faisais pas avant. Parce que je sais que ça va être long, puis pour arriver au bout, il faut du temps. Voilà. Donc c'est un changement dans la manière de planifier mon temps d'occupation, d'écriture, quoi.
Moi, je trouve que je me fais plus confiance parce que je sais comment je fonctionne, tout simplement. Donc, je me pose moins de doutes existentiels hyper forts pendant l'écriture. Je me dis, je sais que là, si j'ai pas la réponse à cette question pendant l'écriture, je l'aurai au moment des corrections, et je vais moins me bloquer sur quelque chose et me dire, j'y arriverai jamais, ça va jamais se débloquer, etc. Je trouve qu'on se connaît mieux, on sait comment on fonctionne, et quelque part, on va plus vite. Et du coup, oui, ça, le résultat fait que on sait ce qui est instinctivement, ce qui va marcher dans son écriture et comment mener l'histoire au bout sans trop paniquer, en fait. Voilà, c'est une question aussi pas mal de panique et de confiance en soi qui a beaucoup bougé pour moi au fil des écritures de tous mes romans, en fait.
Ah, la panique. C'était en plein mois de juillet, le roman, je devais le rendre en septembre. J'avais 15 jours de vacances et Jennifer m'appelle en me disant « Célia, c'est très bien, mais tu fais pas assez peur, le lecteur a pas assez peur, il faut que tu nous fasses trembler dans notre lit ». Et là, je me suis dit, mais j'ai 10 jours de vacances, comment je vais pouvoir faire une nouvelle version si vite? Donc j'ai eu quelques minutes de panique. Et en fait, c'est venu le jour d'après, je savais. Et là, je me suis dit, mais il faut arrêter d'avoir peur.
tu es capable de corriger vite, tu es capable de corriger bien et les idées arrivent en fait. J'ai toujours peur de ne pas savoir faire et en fait, ça m'a appris cette expérience de corriger vite et avec une vraie deadline qu'en fait, je pouvais le faire et que je n'allais pas rester bloquée et que quand je cherche, eh ben, je trouve.
Moi, ça m'a appris à écrire. Parce qu'avant, j'écrivais des nouvelles et pareil, j'écrivais... Enfin, j'y pensais pendant très longtemps et puis d'un coup, c'était, j'accouchais, genre c'était maintenant et hop, je vomissais une nouvelle que je corrigeais pendant très longtemps, mais ça sortait très vite. Et le roman, ça m'a appris à, j'ai appris à écrire, à corriger, à relire, à savoir aussi comment j'aimais écrire, quels étaient l'environnement dans lequel je me sentais bien pour écrire, est-ce que j'avais des petits rituels pour moi. Par exemple, je sais que je suis du matin et pas du tout du soir. Moi, à 22h, je dors. C'est fini, il n'y a plus personne. Et j'ai des amis qui me disaient « Ah, mais moi, j'écris à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. » J'étais là, genre « Waouh, moi, à 5h, je dors, mais tellement !» Genre, c'est ma vie de dormir, donc non. Et du coup, j'ai appris que j'aimais bien me lever à 7h30, 8h le dimanche matin pour écrire jusqu'à 13h. Qu'après, mon cerveau, c'était de la confiture et que je ne pouvais plus rien en faire, donc ça ne servait à rien de continuer. Et j'ai appris à me corriger beaucoup plus efficacement avec mes éditrices notamment, qui m'ont montré du doigt, genre tu vois ce type de langage là, plus jamais. Et je m'étais là, ah mais je ne savais même pas que je faisais ça, genre je ne me rendais pas compte que j'avais ce tic d'écriture ou que j'avais des choses que je faisais, j'avais des fautes par exemple, je ne savais pas écrire le mot, c'était quoi ? Il y avait un mot genre déjà ascenseur, c'était foutu, à chaque fois il y avait une faute. Et il y avait, ah oui, j'écrivais toujours, elle hocha de la tête. En fait ça ne se dit pas, on dit elle hocha la tête. Et ça, genre, j'ai corrigé au moins 55 fois dans les noces, parce qu'il y en avait partout. Et du coup, maintenant, j'ai appris que déjà, il fallait que j'arrête de dire que les gens hochent de la tête, enfin, hochent la tête, et qu'en plus, ça s'écrivait hoche la tête et pas hoche de la tête. Et plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est des choses où inconsciemment, on en prend note, et après, en fait, on le fait plus. Et du coup, on gagne un temps infini. Il y a plein de petits détails. On apprend, voilà, comment on écrit, voilà, qu'on a des points forts, que j'adore les descriptions, mais c'est peut-être pas mon point fort, que ce que je fais bien, c'est peut-être plus les dialogues. Et du coup, voilà, parce qu'on a des retours extérieurs, des gens qui nous encouragent, qui nous poussent aussi, et qui nous montrent, voilà, toi, ce que tu sais faire, c'est ça. Genre, vas-y, fais encore plus, va plus loin, pousse, cherche, creuse et trouve. Du coup, les idées, les solutions. Et du coup, ça aide à prendre confiance. Et c'est vrai qu'après, on aborde peut-être plus sereinement les projets en se disant, bon, je l'ai fait une fois. Ça veut peut-être pas dire que je vais y arriver une seconde fois, mais ça veut pas dire non plus que je vais pas y arriver. Du coup, il y aura peut-être une chance que je recommence et ça va bien se passer parce que je l'ai fait une fois, donc je peux essayer de le faire une seconde fois. Et quand on est soutenu aussi derrière par un éditeur, ça me motive et tout. On sait qu'on n'est pas tout seul, que les projets ils sont soutenus, qu'on croit en nous. Et du coup, ça aide beaucoup à prendre confiance, même si le syndrome de l'imposteur reste toujours tapis sous le lit, tu vois. Je trouve que moi, ça m'a appris à écrire, en fait. Vraiment, d'être publié, de travailler avec un éditeur, de voir qu'est-ce que c'était vraiment un travail d'édition professionnelle, comment il voyait le texte, comment il envisageait. Et du coup, il y a plein de choses qu'on m'a dit que maintenant, inconsciemment, j'applique quand j'écris. Je me rappelle qu'on hoche la tête. Je me rappelle que la construction, on fait ça comme ça, les descriptions. Enfin, il y a plein de choses, de petits trucs qui sont en fait de l'apprentissage constant. Et je pense que de toute façon, en écriture, on ne fait que apprendre tout le temps. On n'est jamais arrivé, en fait. C'est pas parce qu'on a écrit un roman qu'on sait écrire des romans, quoi. Et à chaque fois, on apprend des nouvelles choses et on est toujours dans le perfectionnement parce qu'on a envie de toujours faire mieux on a envie de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme on est tout le temps en évolution, forcément, tout change et il y a des choses qu'on acquiert et des choses qu'il faut continuer à apprendre, quoi.
Et est-ce que vous avez dû apprendre à faire des concessions ?
Ils ont tué des personnages.
Mais toi aussi, t'en as tué plein.
Ils m'ont dit, ouais, mais là, c'est pire. Ils m'ont dit, lui, on l'enlève de l'histoire. C'est pire. C'est genre retour au néant, tu vois. C'était horrible. C'était horrible. Mais oui, les concessions, on m'a fait changer des noms de personnages aussi. Parce qu'on m'a dit, tu vois, comme t'as deux personnages avec des prénoms qui se ressemblent, c'est compliqué pour le lecteur. Donc, changeons le prénom. Au début, tu dis, non. Après, tu fais, bon, d'accord, c'est vrai, ils ont raison, mais genre, mon petit ego veut pas trop, et puis finalement, tu le fais quand même. Ou tu raccourcis des passages, t'enlèves beaucoup de signes, par exemple, aussi, parce que c'est trop long. On n'a pas le choix, de toute façon. Ça fait aussi partie de l'apprentissage. Je pense pas qu'un éditeur nous dise, enlève 100 000 signes, parce que j'ai envie que t'enlèves 100 000 signes. C'est parce qu'il y a une raison derrière, c'est parce que c'est son but à l'éditeur, c'est que le roman soit bien, qu'il plaise, qu'il soit lu. Et du coup, s'il nous demande d'enlever des choses, je pense que c'est parce que lui, il voit peut-être une vision un peu plus d'ensemble et il se dit cette partie-là n'est pas forcément nécessaire, ou elle ralentit, ou elle alourdit. Et du coup, le but, c'est vraiment d'améliorer le texte. Et c'est vrai qu'au début, c'est difficile, on a l'impression qu'on nous coupe un bras ou une jambe à chaque fois. Et au final, avec le temps, on s'habitue parce qu'on voit la grosse image plus que le petit détail qu'on aime bien et qu'on se dit ah mais en fait j'ai bossé sur ce truc là et j'ai pas envie de l'enlever et on, ouais, on fait son deuil de ça et, parce qu'on sait que c'est pour entre guillemets, le bien commun et pour le livre donc c'est difficile mais on apprend quoi.
J'ai un exemple concret, alors pas pour le roman, mais j'ai une nouvelle qui devrait paraître dans une des anthologies de Rivière Blanche, Dimension merveilleuse scientifique, mais pas le prochain, le suivant. Et puis, on m'a demandé de supprimer tout un chapitre. Et c'était vraiment dommage parce que c'est le chapitre que je préférais, celui où je m'étais vraiment donné beaucoup de peine, où il était vraiment super bien écrit, enfin bref. Mais j'ai pas eu d'autre choix que de le supprimer. Puis effectivement, la personne qui joue le rôle d'éditeur a remarqué que ce chapitre n'apportait rien du tout à l'histoire. Effectivement, il n'apporte rien du tout. Il me faisait juste plaisir. Donc voilà. Mais d'un autre côté, je suis aussi directeur de collection d'une collection de science-fiction en Suisse chez un éditeur qui s'appelle Elie Sellars. Et puis dans ce côté-là, je joue le rôle inverse, c'est-à-dire que je fais supprimer des choses.
Donc tu peux te venger, toi.
Exactement. Je me venge largement. Non, mais il y a des raisons, effectivement. Les raisons sont des fois purement économiques. Ça dépend de la grosseur du bouquin. Et puis, il y a aussi un certain nombre de règles. Quand on fait une anthologie, par exemple, il ne faut pas que les nouvelles soient trop grandes, trop différentes les unes des autres. Donc, je me rappelle que j'ai fait souffrir François Rouillet en lui faisant supprimer pas mal de signes dans une de ses nouvelles, mais finalement, ça concourt aussi à l'efficacité de la nouvelle. Voilà, donc, pour illustrer.
C'est vrai que souvent, les éditeurs ont une vision des choses qui est plus commerciale, entre guillemets, parce qu'ils savent ce qui va plaire au lecteur. Et ce qui peut tout simplement stopper une lecture en cours. Et souvent, il faut les écouter, sauf si vraiment, instinctivement, on ne peut pas se résigner à faire quelque chose. Moi, je sais que dans AI, par exemple, il y avait la question du lectorat, de la cible. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas aborder avec des enfants qu'ils n'ont pas encore les codes sociaux pour comprendre certaines choses. Et je pense notamment à un de mes personnages où dans mon esprit, il y avait tout un aspect de harcèlement sexuel par rapport à ce personnage-là. Et mon éditrice m'a dit que pour elle, c'était pas possible de comprendre ça à cet âge-là pour les enfants et que ce serait malaisant plus qu'autre chose d'en parler. Et donc, en fait, c'était dur à accepter pour moi, mais on l'a transformé de façon à ce que le message reste quand même que, en tant que femme, elle doit être émancipée et qu'aucun homme ne doit lui expliquer ce qu'elle doit faire dans sa vie et que, voilà, il n'y a pas de supériorité masculine sur les femmes. Et au final, le message était le même, mais amené d'une façon beaucoup plus compréhensible pour des enfants de cet âge-là.
Hein. Je pense que ceux qui sont capables, vous le verrez en lisant Amis imaginaires, mais on sent, en tant qu'adulte, forcément, on le voit, et un enfant qui sera capable de le percevoir parce que lui, ça va le toucher, le sentira aussi.
J'ai eu souvent des retours de lecteurs.
Je voulais te le confirmer, Betty. Ouais. Enfin, moi, je l'ai lu en tant qu'adulte, Amis imaginaires, et le harcèlement sexuel, si, je l'ai vu.
Voilà.
Alors, il n'est pas dit, mais quand on est adulte, le message passe vraiment. Ouais. Donc rassure-toi, je t'assure, oui. On le sent.
Mais voilà, le lecteur adulte est capable de se dire, je pense qu'il y a un sous-texte derrière ça, mais le lecteur enfant n'était pas forcément apte à le comprendre. Donc c'est au final, et c'était une bonne chose de changer pour qu'il y ait ces deux degrés de lecture et pas un degré un peu brut qui arrivait dans la face. Pour ce lectorat-là, quoi.
Alors moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai tendance à écrire des squelettes. C'est-à-dire que j'écris des premiers jets extrêmement secs, courts. Et donc, du coup, les éditeurs me disent « mets en plus, rajoute des choses ». Et du coup, c'est pas du tout la même démarche, c'est pas frustrant, en fait. Il faut juste que j'arrive à chercher comment enrichir l'univers, mais ce qui n'est pas désagréable du tout, en fait. C'est pas du tout pareil, il n'y a pas de coupe en fait. Au contraire, mes premiers jets sont beaucoup plus courts que les résultats finaux. Donc, c'est pas frustrant.
Et après, dans le rapport au lecteur, parce que là, vous les voyez, vos lecteurs, vous allez aller sous la bulle tout à l'heure pour dédicacer. Qu'est-ce qui vous renvoie et question subsidiaire, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas forcément vues et qui viennent vous rapporter sur votre texte? Ça, c'est pas forcément le cas. C'est si ça vous est arrivé de vous dire « Ah ouais, il a vu ça, moi j'avais pas vu quoi ».
Moi, j'ai une blogueuse qui m'a demandé une interview parce qu'elle voulait absolument qu'on parle du sous-texte sur la lutte pour les animaux à l'intérieur de mon livre, alors que j'avais eu l'impression de me retenir, de mettre cet aspect-là ma personnalité, en me disant que c'était pas le lieu et qu'il y avait déjà suffisamment de choses traitées. Et elle m'a balancé plein de choses de ce qu'elle avait compris dans mon livre. Et je me disais, d'accord, c'était dedans ça. Enfin, j'ai vraiment pas fait exprès, quoi, même si c'était exactement ce que moi je ressentais et ce que je pensais. Mais j'avais l'impression de pas l'avoir mis à l'intérieur du livre comme ça. Et c'était assez bouleversant parce que j'avais l'impression qu'elle m'avait vraiment comprise, moi, très profondément, sans me connaître et en ayant juste lu un livre, quoi. Et je me suis dit, d'accord, donc il y a cette possibilité de lecture qui est, que moi, je n'ai pas mise, mais qui, pour certains lecteurs, transparaît dans le livre. Et ça, c'est assez, assez intéressant. Et après, c'est les lecteurs enfants, ce que je voulais, hein, tout simplement. Quand on a quelqu'un, un parent ou un enfant qui nous dit, par exemple, une maman qui va nous dire... mon fils, il aimait pas lire, et puis je lui ai acheté ton livre, et puis au final, il l'a lu en deux jours, et maintenant, il en demande d'autres. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, mais ça me serait arrivé juste une seule fois. Je me serais dit, c'est bon, j'ai fait le job, je peux partir à la retraite. Non, pas encore. Mais voilà, ce genre de choses, je pense que c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir quand on écrit, en tout cas pour la jeunesse, même pour les adultes. Donc ça, c'est hyper touchant, hyper intéressant, quoi.
Les autres, alors, voilà, premier roman, premier lecteur, du coup.
Oui, je confirme cette impression parce que mon livre a été lu dans les écoles de village à côté d'où j'habite. Et puis, il y a deux filles, un jour à midi, qui sont venues vers moi en me disant « Monsieur, on a adoré votre livre ». Enfin, ça fait vraiment très plaisir, quoi, de voir ça. Et puis, alors, non, je sais pas, j'ai pas, par rapport à l'autre question, j'ai pas d'éléments qui permettent de voir dedans ce que j'y aurais pas mis ou ce que j'y aurais pas vu, en l'occurrence. Parce que c'est quand même un livre pour la jeunesse qui utilise quand même des codes de science-fiction. C'est assez classique, on va dire, dans le traitement. Donc, voilà.
Il est classique peut-être dans le traitement, mais après, derrière, on a toute une dimension qu'on sent, un imaginaire qui était tout personnel. Enfin, c'est un livre touchant, et en particulier dans la quête des personnages. Et est-ce que c'est différent, le retour, par rapport à ton roman par rapport à tes nouvelles, puisque tu as eu déjà plein de lecteurs avant? Est-ce que ça change quelque chose que ce soit un roman cette fois?
Oui, parce que sur les nouvelles, on n'a généralement pas de retour. C'est très rare. Ouais, c'est juste peut-être deux lignes dans un compte-rendu quelque part, mais voilà. De vivre le retour des enfants, moi je trouve ça magnifique, quoi. Et c'est touchant, ouais, c'est vrai.
Je dois dire qu'il y a certains retours, moi, qui sont gravés dans ma mémoire, parce que je me suis sentie comprise comme Betty, comme si la personne me comprenait moi-même à travers le livre. J'ai l'impression que les lecteurs voient parfois plus loin que moi dans le personnage ambivalent du clown. Certains en sont très effrayés et m'ont dit « Je déteste les clowns, mais j'ai adoré ton livre. » D'autres m'ont dit « Oui, le clown incarne une forme d'ambivalence entre la joie et la tristesse, entre la peur et puis la peur qu'inspire la dystopie et en même temps la liberté du cirque. » Enfin, certains ont creusé dans ces personnages de clown que j'ai écrits jusqu'à me trouver moi, en fait.
Moi, c'est arrivé assez tard, en fait. En fait, c'est cette année, du coup, avec le prix Imaginal des lycéens, du coup, beaucoup de lycéens ont lu le livre et ils m'ont posé des questions, genre, tellement intéressantes. Et beaucoup m'ont parlé de la dimension féministe du personnage violente. Et en fait, sur le coup, ça m'a un peu perturbée parce que je me suis... En fait, je me dis, maintenant, je le vois, parce que je suis beaucoup plus déconstruite que ce que je pouvais être quand j'ai commencé à écrire ce livre. Et en fait, du coup, à l'époque, j'y pensais pas du tout, parce que j'étais vraiment dans un début de processus de déconstruction. Et du coup, en fait, ça, je pense que ça annonçait vraiment seulement le féminisme que j'allais vivre plus tard, quoi. Mais eux, ils l'ont vu tout de suite. Et alors que bon, pour moi, c'était pas évident. Je pensais que j'avais envie d'écrire un personnage de femme parce que j'en avais pas lu quand j'étais jeune et que j'avais envie que les jeunes, ils aient aussi des personnages différents pour s'identifier. Et que quand j'étais petite, quand je lisais Tolkien ou Gemmell ou trucs comme ça, il n'y avait pas une seule nana, quoi. Et donc, j'adore Aragorn, mais on ne peut pas du tout s'identifier à lui, c'est pas possible. Et du coup, j'avais envie d'écrire des personnages de filles parce que c'est ce qui va me manquer. Et tu vois, j'avais envie de voir ça. Et eux, tout de suite, ils ont vu cette dimension de femme qui prend sa vie en main. Et oui, c'était ce que je voulais faire, mais à l'époque, je ne l'avais pas relié à une pensée féministe que je peux avoir maintenant. Donc ça m'a énormément... ça m'a vraiment... Je me dis, ah ouais, ok, ils ont vu ça tout de suite. Eux, pour eux, c'était évident. Et ils ont raison, en fait, avec le recul. C'est vrai qu'il y a ça dedans, mais moi, je ne l'avais pas vu. Je m'en rends compte que maintenant, en fait. Donc c'est chouette. Et puis, ouais, comme vous dites, rencontrer les lecteurs. Enfin, du coup, avant la sélection pour le prix Imaginaire lycéen, j'avais surtout des lecteurs qui lisaient du young adulte, mais étaient plutôt dans des tranches d'âge d'adultes. Donc c'était ma première vraie rencontre avec la cible, entre guillemets, du livre, donc des lycéens et tout. Et leurs retours sont toujours... c'est tellement agréable de parler avec eux, qui me disent « Ah, tu vois, j'ai lu toute la sélection et c'est la première année que je lis autant de livres et tout. J'ai aimé les livres et j'ai aimé ton livre et tout. Et du coup, j'ai envie de continuer à lire. » Bah ouais, job done, merci.
Juste ajouter quelque chose par rapport au personnage féminin. Effectivement, quand j'ai rédigé le bouquin, là, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il n'y avait pas de fille. Je me suis dit, mais il n'y a pas de fille dans ce récit, alors que c'est une école, ça se passe dans une école, il y a des filles dans les écoles. Enfin, bon. Alors, je me suis dit, il faut que je mette un personnage féminin. Alors, j'ai mis un personnage féminin.
Lauriane.
Et finalement, et ça s'est passé totalement inconsciemment, hein, c'est assez drôle, mais c'est elle qui vient le personnage principal à la fin du récit.
Elle se débrouille beaucoup mieux que les garçons. Oui.
Enfin, voilà.
On arrive vers la fin. On a parlé un petit peu des projets. Toi, tu arrives cette fois avec un nouveau roman, Les Noces de la Renarde. Rouille est à l'honneur, bien à l'honneur avec le prix des lycéens. Donc, Célia, toi, tu vas pas pouvoir aller dédicacer tout de suite, mais tu as avec toi Le Cirque Interdit et Iseltan aussi. À découvrir. Betty, tu vas peut-être pouvoir aller dédicacer Amis Imaginaires et donc le faire découvrir. Et Jean-François, je ne sais pas si tu as du boulot parce que tu viens aussi en tant que modérateur. D'accord, donc pour présenter Troc de Choc, je vous remercie tous et tous. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci, Sylvaine.
Ma batterie de vrai téléphone qui m'entend.